Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Elle n'a ni épousé François-Joseph Ier, ni même visité l'Autriche. Elle n'a pas été assassinée à Genève et Romy Schneider ne l'a pas incarnée au cinéma. En revanche, elle a bien été impératrice, mais de Chine. Stéphane Bern nous raconte, non pas Sissi, vous l'aurez compris, mais Tsé-Si, l'impératrice. Oui, oui.
Nous sommes en Chine impériale, au nord-ouest de Pékin. Sur près de 300 hectares s'étend le somptueux Yeyuan, le palais d'été. Symbole de l'architecture traditionnelle du pays, il sert de refuge aux empereurs qui, à l'écart du fourmillement incessant de la capitale, peuvent profiter d'un paysage de lacs et de montagnes, loin des murs de la cité interdite et de sa fournaise estivale. Alors, quel comble de voir l'édifice livré aux flammes en 1860. En pleine seconde guerre de l'opium, le déchaînement des forces alliées anglo-françaises débouche en effet sur la destruction du palais d'été. 20 ans plus tard, l'impératrice Tsé-Si prend les choses en main. Pour son 60e anniversaire, elle fait rebâtir l'édifice en n'hésitant pas à piocher des sommes considérables dans des fonds destinés à la marine. En 1903, enfin, l'impératrice veuve s'y installe avec une ribambelle de nuque. Sa résidence privée, la salle du bonheur et de la longévité, fait face au lac de Kunming. Ce jour-là, à l'intérieur, l'impératrice prend place au bout d'une longue table. Le repas arrive. Tsé-Si va se faire servir comme à son habitude. 128 plats différents. Et alors, elle fait bien ce qu'elle veut, hein. C'est elle qui est l'impératrice, elle dirige le pays. Née en 1835 à Pékin, Tsé-Si est élevée dans une illustre famille mandchoue. On lui apprend, c'est rare, à lire et à écrire. Comme elle appartient à l'ethnie régnante de la dynastie Qing, elle a la chance de ne pas subir l'abominable torture des pieds bandés. Ça fait 1000 ans que les jeunes filles doivent porter des bandelettes serrées pour déformer leur chair et courber les os. Le but d'une telle barbarie ? Que leurs pieds ne dépassent pas 7,5 cm. À l'âge de 16 ans, Tsé-Si est introduite, avec ses grands pieds donc, à la cour impériale au titre de concubine. Elles sont près de 60 jeunes filles à pouvoir se vanter de divertir l'empereur Xianfeng. Mais Tsé-Si va toutes les devancer. Concubine de 6e rang, elle va se hisser tout en haut du podium en donnant naissance au premier fils survivant de l'empereur, le petit Tongzhe, en 1856. Elle devient ainsi l'épouse numéro 2 après l'impératrice Zhuan. En 1861, l'empereur meurt prématurément à l'âge de 30 ans. Tongzhe lui succède sur le trône, mais ses pieds ne touchent pas encore le sol parce qu'il a à peine 5 ans. C'est donc Tsé-Si, impératrice douairière, qui exerce la régence. Elle en a 26. Elle compte bien mener à bien, comme elle l'entend, sa mission. Dans un semblant de coup d'État, Tsé-Si se débarrasse des régents encombrants mis en place par l'empereur qui n'est plus. Quelques-uns sont condamnés à mourir par la lente torture du Linzhe, dit aussi la mort des 1000 coupures.
Qu'est-ce que c'est que ça, hein ?
Cela consiste, bon, attention aux âmes sensibles, hein, il vaut mieux qu'ils s'éloignent du transistor, à entailler et retirer par tranches fines muscles et organes du condamné, un peu comme on éplucherait une pomme à l'économe, avant enfin de lui trancher la tête.
Ah, mais qui vient comme un soulagement, du coup. Pour
oui, en matière de torture, la Chine a plus d'une corde à son arc. Habile, Tsé-Si n'utilisera que très peu la torture et la condamnation à mort, contrairement à l'image véhiculée par sa légende noire. Elle ne fut pas une despote sanguinaire. Tsé-Si a maintenant les mains libres pour régner, surtout que l'impératrice Zhuan, avec qui elle est censée partager les pleins pouvoirs, reste dans son coin. On peut comprendre qu'elle ne se sente pas les épaules pour diriger un pays en si piteux état. La Chine a perdu contre l'Occident lors des deux guerres de l'opium, particulièrement dévastatrices. Pendant ce temps, Tongzhe grandit dans l'ombre de sa mère, mais grandit quand même. En 1873, il atteint la majorité. L'impératrice Tsé-Si reste aux manettes et utilise son fils comme une marionnette. Normalement, elle ne doit pas assister aux séances du conseil dans la salle du trône. Normalement. On ne la voit pas, mais Tsé-Si est bien là. Elle règne littéralement derrière le rideau, car elle se cache derrière un paravent pour entendre tout ce qui se dit et murmurer à l'oreille, non pas des chevaux, mais de son fils Tongzhe. Comme on l'a dit, elle sait lire et écrire et l'empereur Xianfeng l'avait initiée aux affaires de l'Empire. La politique et le protocole, Tongzhe, lui, s'en contrefiche. Ses passions se résument en deux mots, opium et prostituée.
Comme vous, Stéphane.
Pas du tout. Malheureusement, à trop jouir du libertinage, ouais, le jeune empereur attrape la syphilis. Mmh. Il meurt 2 ans seulement après son accession au trône. Celui-ci fait mine de pleurer son fils, mais elle est bien contente de conserver les rênes du pouvoir. Et pour être sûre de les garder encore longtemps, elle n'hésite pas à violer les règles dynastiques mandchoues en faisant adopter de manière posthume son neveu par son fils. Résultat, le fils de sa sœur est désormais successeur au trône, mais comme celui-ci, le futur empereur Gyeongchu, n'a que 4 ans, je vous laisse deviner qui va continuer à gouverner bien tranquillement.
Bien sûr.
Ceci, l'impératrice règne sur la Chine durant 47 ans. Le bilan de son long mandat est mitigé. Contrairement à ce qu'on a cru pendant longtemps, l'impératrice douairière n'était pas réfractaire à la modernité. Au contraire, elle aurait même fait de la Chine médiévale un état moderne en développant les industries, les chemins de fer, l'armée, les universités, où elle encourage d'ailleurs les femmes à y étudier. Hyper connectée, elle a même fait installer le télégraphe dans tout le pays. On a déjà vu plus conservatrice. Mais sous son règne, le pays est en proie aux guerres, aux catastrophes naturelles et aux rébellions. La révolte des Taiping, que la dynastie Qing met près de 15 ans à mater, est même considérée comme l'un des conflits les plus meurtriers de l'histoire. Résultat, la population de la Chine passe de 450 à 400 millions d'habitants entre 1850 et 1890. Elle perd aussi de grands territoires. Quand les boxeurs opposés à la présence d'étrangers et de chrétiens en Chine se soulèvent, ceux-ci font l'erreur de les soutenir et sa réputation en prend un sacré coup. Alors, pour redorer son image, elle multiplie les flatteries envers les épouses de diplomates. Ceci a un modèle en Occident, la reine Victoria. Pendant la fin de son règne, elle tente de mettre en place une transition démocratique en s'inspirant de la monarchie constitutionnelle britannique. Elle permet le développement d'une presse libre, abolit la torture ou l'esclavage et tente d'interdire la pratique des pieds bandés. Mais celle-ci est décidément très ancrée. En 1908, âgée de 72 ans, ceci sent la mort venir. Un jour, avant qu'elle ne rende son dernier souffle, l'empereur Gyeongchu, son neveu, qu'elle a fait adopter à titre posthume par son propre fils déjà mort, pour lui offrir le pouvoir, mais pas tout de suite, je vous le rappelle, Gyeongchu, donc, décède brutalement. L'aurait-elle empoisonné avec un yaourt à l'arsenic pour qu'il ne lui survive pas? C'est possible. Avant de mourir, ceci nomme Puyi, un enfant de 3 ans, héritier du trône. Puyi sera le dernier empereur de Chine. En 1911, la dynastie Qing est renversée. Avec elle disparaît le régime bimillénaire de la monarchie impériale. Et la Chine devient une république. Si, si. À quelques milliers de kilomètres de là, la monarchie autrichienne s'effondre peu de temps après pour laisser place, là aussi, à une république. L'avant-dernière impératrice d'Autriche n'était autre que l'homonyme occidental de Cixi, Cixi l'impératrice, coïncidence. Oh, certainement une coïncidence.
Certainement, Stéphane.